Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Voilà, ça fait maintenant bientôt 15 jours que je tourne dans la région Occitanie et que je vais d'église en église pour annoncer un petit peu la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi parler de ce que le Seigneur nous donne la grâce de faire, comme votre pasteur a su le dire au Congo avec mon épouse depuis 4 ans maintenant. J'aimerais bien qu'on puisse d'abord rentrer dans la parole de Dieu avant qu'on puisse partager quelques nouvelles du Congo. D'ailleurs, je vous poserai quelques questions parce que je vois des frères et sœurs qui sans doute sont nés sur le continent africain. Donc, je vous poserai un peu des questions, savoir si vous êtes, certains d'entre vous sont du Congo. En tout cas, si c'est le cas, Mbote Nabino. Ah, il y en a qui répondent là. Waouh. Allez, on va voir ça tout à l'heure. Mais je vous invite à ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder. Ça, alors, ça fait chaud au cœur, ça. Vous savez que je me sens plus étranger quand je suis en France que quand je suis là-bas. Parce que là-bas, c'est devenu un peu ma maison. Hein. C'est devenu ma maison. Vraiment, hein, ça me fait bizarre quand je rentre en France. Et pourtant, ça fait que 4 ans. Alors, quand ça sera peut-être quelques années de plus... Allez, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens. On va lire quelques versets rapidement ce matin. Voilà, je voulais commencer par la parole parce que si je raccourcis un petit peu ce que je vous dis sur le Congo, c'est pas grave. Mais la parole de Dieu, c'est essentiel. C'est essentiel. Oui, alors ça c'est bien. Ça sera pour tout à l'heure. Ça. Merci beaucoup au frère qui l'a mis. Colossiens chapitre 2, on va lire juste le verset 10. Colossiens, chapitre 2, verset 10. Voilà. J'invite toujours ceux qui ont leur Bible à les prendre, à les amener, à les utiliser. Ce n'est pas fait pour être fermé, mais être ouvert et être lu. Colossiens 2, 10. Je le lis dans la version Summer. Écoutez bien. Et par votre union avec lui, le lui ici c'est Christ, hein, c'est un pronom qui parle de Christ. Donc je dis, et par votre union avec Christ, vous êtes... pleinement comblé. Ouais, tout le monde dit amen, ou presque. Alors je répète, parce que le verset est court. Et par votre union avec Christ, vous êtes pleinement comblé. Voilà, ce petit verset ne paye pas de mine, mais il nous dit quelque chose d'extrêmement profond. J'aime, moi, gratter un petit peu derrière le texte. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une fille qui fait du grec maintenant, donc je la sollicite régulièrement. Et le petit mot qui est derrière « pleinement comblé », qui a été traduit par « pleinement comblé », désigne un récipient, d'accord, dans lequel il n'y a plus la place pour une seule goutte. Est-ce que vous me suivez? Quand vous achetez une bouteille d'eau minérale dans le supermarché, vous allez dire, elle est pleine. Mais si vous regardez bien, il reste toujours un petit centimètre, un demi-centimètre. Elle n'est pas pleine au sens du texte ici. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, par la nouvelle naissance qui vous a uni à Christ, d'accord, votre vie, votre existence, tout votre être entier est... totalement, entièrement, 100%, pas 99, mais 100% comblé. Amen. Alors on va voir si votre amen résiste à ce que je vais dire ce matin. Parce que c'est une pensée qui traverse tout l'évangile et particulièrement les lettres de Paul. Prenez avec moi un deuxième texte, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 23. Et vous garderez Éphésiens 1 parce qu'on va aller regarder un petit peu d'autres versets dans ce chapitre-là. Éphésiens 1, 23, tournez rapidement les pages. Il est dit, Éphésiens 1, 23, Christ en qui habite, donc en lui, hein, en qui habite toute la plénitude, encore le même terme, d'accord, du Dieu qui remplit tout, encore toujours le même terme, en tous. Donc c'était une pensée que le Saint-Esprit a mise sur le cœur de Paul, qu'il voulait partager aux chrétiens des premiers temps. Il dit votre union avec Christ, votre ce Saint-Esprit qu'il a déposé en vous est capable réellement de tout remplir, de vous donner une totale plénitude. Beaucoup d'entre vous ont dit amen à ça. Alors on va faire ensemble un petit test par la pensée. Imaginez l'espace d'un instant que le Seigneur retire les unes après les autres toutes les grâces qu'il vous a accordées dans la vie. Tout ce que vous avez est grâce, tout ce que nous avons est grâce. Alors on y va, on retire la santé. Ah ! En général, quand on se fait la bise à minuit le 31 décembre et le lendemain matin, même les gens, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils disent l'important c'est la santé. Hein. Tant que la santé est là, ça va. C'est vrai ou pas? Eh oui. Mais imagine qu'il retire la santé. Imaginez qu'il retire la santé. Et puis il retire les finances. Et puis il retire le travail. Et puis il retire le statut social. Et puis il retire, il retire, il retire. Est-ce qu'on va encore dire qu'on est comblé? Eh oui, je pense qu'il faut être honnête. Pourtant, le texte ne nous laisse aucune ombre à ce tableau. Il nous dit, quand vous avez Christ en vous, quand il est devenu le chef, le roi de votre vie, quand il est venu trôner sur le siège de votre cœur, vous avez 100% de ce qu'un homme, un être humain, peut avoir. Au-delà de toutes les grâces et de toutes les bénédictions que Dieu, dans son amour, nous accorde sur cette terre. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Vous savez que c'est arrivé à un homme dans la parole de Dieu. Votre pasteur connaît bien sa Bible, évidemment. Vous savez, vous connaissez le dialogue qu'il y a entre Satan et Dieu. Retire-lui ça, touche à ceci, touche à cela, et tu vas voir, il va finir par te maudire en face. Et Dieu a pu dire, ok, vas-y, 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 la seule chose, c'est touche pas à sa vie. Évidemment, quand il n'y a plus la vie, après, l'homme il est dans l'éternité, on est passé à autre chose. Je vous demande juste de réfléchir un peu avec sérieux par rapport à ça. Parce que je vais vous dire une chose. Notre vie n'est réellement pleinement vécue dans le Seigneur que quand le Seigneur, petit à petit, année après année, peut nous amener à cette pensée, mais plus qu'une pensée, plus même qu'une conviction, quelque chose qui est enraciné dans votre âme et que personne ne peut déraciner. Tant que je t'ai toi, Seigneur, tant que tu es mon sauveur, tant que tu es là près de moi, tout peut m'être pris. J'ai le trésor le plus grand, le plus absolu, le plus incomparable qui puisse être donné à un homme d'avoir. Moi qui vous parle, vous savez, un jour j'ai eu 18 ans, vous imaginez, hein, ouais. Forcément, j'en ai un peu plus maintenant, je suis dans ma 49e année. J'avais 18 ans, j'étais en pleine forme. Je vous donne, peut-être il y a quelques jeunes parmi vous. J'étais en pleine forme. Je faisais les colonies avec Madame Bazin à l'époque. Vous voyez, j'étais certains d'entre vous peut-être connaissent Joseran. C'était pas Joseran à l'époque, c'était dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'étais engagé dans l'Église. J'avais 18 ans, ça faisait 3 ans que j'étais baptisé. J'avais donné mon cœur au Seigneur. J'étais heureux de le servir dans les colonies de vacances, tout ça. Et pour une raison que je n'exposerai pas ce matin, la santé m'a été retirée. Mais pas dans la petite mesure, hein, dans la grande mesure. Hein. J'ai perdu 10 kilos en un mois. Vous voyez ? Enlevez-moi 10 kilos. Vous allez voir à quoi je ressemble. Hein. Déjà, je ne suis pas épais, je le sais. Le Congo ne me fait pas épaissir. Alors que je rentrais dans les études, dans une vie sociale, dans le désir de fonder un foyer. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là qu'un jeune homme peut désirer, n'est-ce pas ? La santé vous est prise. Vous passez un an dans les hôpitaux, et à droite, et à gauche, et les scanners, et les trucs, et les opérations. Je ne peux pas tout vous raconter ce qui s'est passé. Alors Dieu n'a pas permis que tout me soit retiré, mais vous savez quand la santé vous s'en va. Et là, ça m'a donné réellement. Ça a été une grâce pour moi. Je vous en parle aujourd'hui. Ça a été une souffrance, mais ça a été une grâce pour moi parce que ça m'a permis de recentrer ma vie sur l'essentiel. D'être centré sur celui et celui seul qui donnait toute la saveur à mon existence. Moi, j'étais dans cette pensée-là que pour que ma vie soit comblée, il me fallait encore autre chose. Et si on est honnête, on est bâti comme ça. Oh, j'ai une petite maison, si elle était plus grande. Oh, j'ai un petit, et si c'était plus. Et si, ah, ça serait mieux, ça serait mieux, ça serait mieux. Et je me sentirais mieux. Non, tu ne te sentiras pas mieux. Ce qui te fait te sentir mieux, c'est d'approfondir ta relation avec lui. Regardez, il y a ces hommes de l'Ancien Testament qui nous ont tracé un chemin. J'ai relevé rapidement, ne prenez pas le texte. Dans le psaume 73, c'est Asaph qui parle. Écoutez ce que dit Asaph. Il dit, « Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Je ne prends, c'est tellement fort qu'on se demande des fois si on serait capable de véritablement de le prononcer nous-mêmes. Vous allez prendre plaisir à midi dans un bon repas. Moi aussi, je suis le frère qui m'invite. J'espère en tout cas que je pourrai le digérer. Non, mais je sais que vous avez préparé ce qu'il faut. Oui, on prend plaisir dans diverses choses. Et Dieu ne nous refuse pas ces choses-là parce qu'il est bon. Mais quand ces choses-là s'en vont, le Covid, ça a été un petit coup de semence là, qui nous a dit « attention !» Et combien ont flanché à ce moment-là? Je suis parti en 2020, j'ai vécu une bonne partie de l'Église avec le Covid aussi. Parce que la réalité, c'est que nous ne pouvons pas déclarer aussi fortement, en tout cas je parle pour moi, comme Asaph, « Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi !» David dira la même chose dans un autre psaume, psaume 16, il dit « Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. » Dans la version seconde, c'est « Tu es mon bien suprême. » Frères et sœurs, ces hommes-là nous donnent une leçon. C'était des hommes de l'ancienne alliance. Ils n'avaient pas l'accès au lieu saint, au lieu très saint, tel que nous l'avons aujourd'hui. Nous, on est des privilégiés, on ne le sait même plus. Ferme les yeux, on est là, puis de toute façon le Saint-Esprit est là, hein, ce n'est pas le lieu qui compte, Dieu est là, et je suis là avec mon Père dans le lieu secret, mon Père qui est là me le rendra, il n'y a pas de souci. Voilà, et je peux vivre cette connexion avec le ciel extraordinaire où que je sois, quelles que soient mes circonstances. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem, je n'ai pas besoin d'avoir un intermédiaire. J'ai Christ, j'ai tout. Alors on va regarder un petit peu quelles sont les raisons que Paul nous donne pour être comblé en Christ. On ne va pas tout lire parce que je n'aurai pas assez de temps ce matin, mais je vous invite à lire Éphésiens chapitre 1 en entier à la maison, tout à l'heure ou ce soir. On a lu Éphésiens 1, 23, il amène cette conclusion en disant « Vous êtes tout pleinement en Christ, il remplit tout en tous ». C'est la conclusion de tout le développement qui est au-dessus et de l'introduction au chapitre, donc au verset 1. Prenez avec moi Éphésiens, on va lire au verset, à partir du verset 3, le verset 1 et 2, c'est juste l'introduction. Et entre le verset 3 et le verset 14-15, vous verrez, vous allez avoir plein de raisons de vous sentir comblé en Christ. J'en développerai 2-3 ce matin très rapidement, très rapidement. Verset 3, il est dit, Éphésiens 1-3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit. » Vous voyez, c'est toujours la même chose, hein. Paul, il se répète, mais c'est parce qu'on a la tête dure, sans doute, et le cœur dur. De toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Donc il introduit et il conclura au verset 23. Et entre les deux, vous avez des raisons. Unis à Christ, voilà quelles sont les grâces qui sont attachées. Et vous allez voir, il n'y a rien de terrestre. Il n'y a rien de matériel. Mais rien, je dis rien. Alors que nous, on voit nos vies, on court derrière le terrestre et le matériel. Parce que la vérité, c'est que nous ne sommes pas vraiment comblés. Donc, il introduit ça, verset 3, et il nous donne ici une première raison. Juste après, verset 4, en lui, écoutez bien, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Ah, son choix sur nos vies. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il, c'est-à-dire Dieu, a voulu pour nous. On va s'arrêter là quelques instants. Une première et extrêmement profonde raison. Cette raison-là, bizarrement, j'ai été pasteur d'église avant de partir, j'étais à deux églises dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc, j'avais des relations avec les frères et sœurs. Et cette raison-là, bien peu d'entre eux avaient compris la portée de ces textes. Ce que nous dit Paul ici, et c'est clair, c'est « Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. » Mais vous savez que j'ai dû méditer pendant des années pour creuser ce texte et comprendre quelle était la portée de ce texte-là. Je me souviens, j'étais peut-être entre mes 20 et 30 ans à cette époque-là, et je lisais beaucoup la parole de Dieu, vous savez, j'étais malade. Vie sociale, désocialisée, les études c'était compliqué, j'ai pu en faire quand même de longues, Dieu merci, mais c'était compliqué. Donc je passais du temps dans la présence de Dieu, du temps avec le Seigneur, et sa parole me nourrissait, me faisait grandir, j'ai vécu des temps extraordinaires avec mon Dieu, temps de visitation formidable. Et alors que je méditais ces textes-là et d'autres encore qui nous disent un peu la même chose, un jour est venu se poser cette question sur mon cœur. Quand j'ai réalisé ça, quand l'Esprit a ouvert mon cœur à cette vérité, j'ai dit « Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi tu as décidé de toute éternité de me chercher moi, d'attirer mon cœur à toi ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas celui d'à côté, Seigneur ? Oui, je sais, tu es mort pour tous, mais je vois quand même une distinction. Il y a celles et ceux qui reçoivent la foi d'en haut, c'est un don de toi, et qui finissent par te dire oui, et il y a ceux qui restent dehors pour toujours. Et quand je disais au Seigneur, pourquoi moi ? Au moins, il me répondait. Il dit, c'est ma souveraineté. Mais c'est beau, ça. Ça vous dépouille de tous vos mérites, ça vous dépouille de toutes vos capacités, et même du oui que vous avez dit à Dieu, c'est un don de sa grâce. Pourquoi moi, Seigneur ? Quand on perd de vue cette réalité, qu'elle n'alimente pas notre cœur au quotidien, chaque jour dès qu'on se lève le matin, « Seigneur, je t'appartiens, mais pourquoi moi ?» On ne peut pas se sentir comblé. Alors on va avoir besoin d'une prédication, deux, trois prédications dans la journée pour s'alimenter un peu. On va picorer comme ça quelques pensées. Mais il y a des vérités profondes qui sont là pour nous alimenter, même pas 40 jours ou 40 nuits, mais 40 ans, 50 ans, 80 ans, jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne. C'est des choses que j'ai découvertes il y a plus d'une vingtaine d'années. Ça nourrit mon cœur encore aujourd'hui, chaque jour. Seigneur, je suis émerveillé, il n'y a pas besoin qu'on me pique là pour que je te loue. Il n'y a pas besoin de me mettre dans une ambiance pour que je te loue, Seigneur. Pas besoin d'avoir un beau piano, même si c'était beau ce matin et je me suis fait du bien. Mais pas besoin de tout ça, Seigneur, j'ai cette vérité-là, qui me comble. Ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est ce niveau de communion que Dieu veut développer avec nous. On est tous un petit peu comme des espèces de murs. Là, il y a des étés, là. On tient un petit peu à droite, à gauche, un peu le conseil du pasteur, un peu ceci, un peu cela. Si tout ça, ça disparaissait, s'il y avait un tremblement de terre, l'église s'écroule, on ne peut plus se réunir. Vous êtes comblés en Jésus-Christ. J'avance un peu. Parce que je dois vous parler du Congo, suffit. Deuxième aspect de ce texte-là, verset 7, j'avance un peu. en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans la petite mesure, non, dans toute sa richesse. Et le mot grec derrière, il est fort, dans la totalité, l'entièreté de sa richesse. Et il l'a répandu sur nous avec surabondance, en nous donnant la pleine sagesse, pleine intelligence, nous faisant connaître son plan secret, ça on va le voir plus tard. Savez quoi ? On a fait du mot bénédiction autre chose que ce que la Bible en dit. On l'a un peu trop matérialisé, terrestrisé, ça n'existe pas, mais vous comprenez ce que ça veut dire. La bénédiction des bénédictions, et j'ai entendu plusieurs louanges dans ce sens-là ce matin, ça a réchauffé mon cœur. C'est dire, Seigneur, tu as effacé ma dette. Vous savez, quand on est dans l'église depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, c'est un message qu'on a entendu des milliers de fois. On le sait, on le sait. Et vous savez, sur cette terre, il y a toujours une forme d'usure, d'habituation, d'accoutumance. Et on finit par déclarer les choses de manière presque parfois un peu mécanique. Oui, en Jésus, je suis sauvé, il a effacé ma dette, il a effacé mon péché. Vous voyez, on le dit, on le sait, on en est même convaincu. Mais est-ce que cette réalité-là vient encore alimenter ta vie au point de la combler chaque jour ? Si vous croyez que vous avez fait le tour de la croix, c'est que vous n'avez jamais fait le tour de la croix, réellement. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 15 ans. Je ne dis pas depuis cet âge-là, puisque le Seigneur m'a fait grandir, mais depuis quelques années, bien, presque une vingtaine d'années maintenant, je demande au Seigneur, chaque jour, Seigneur, donne-moi de comprendre toujours plus loin, toujours plus en profondeur, ce que tu as fait pour moi à la croix. Vous allez dire, mes frères, c'est bon, vous n'en avez plus besoin, vous avez bénéficié de la croix. Jésus vous a sauvé, vous avez cru en lui, oui. Oui, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on peut réaliser que ce que Christ a fait pour nous va au-delà de notre expérience même de conversion ? Dieu n'a pas terminé dans nos cœurs de creuser cette réalité. La croix, vous savez, c'est quelque chose qui n'était pas pour hier, c'est pour aujourd'hui et même pour demain. Elle doit alimenter nos vies. Vous savez, pour être comblée, elle doit alimenter nos vies au quotidien. Et moi, je peux vous dire que depuis ces années, Dieu travaille mon cœur. Et il travaille particulièrement à approfondir la conviction de péché qu'il m'a donnée il y a 34 ans en arrière. Et quand vous êtes en train de mesurer en permanence sa dignité et votre indignité, sa pureté et votre souillure, alors il y a quelque chose qui vient remplir votre âme d'une louange, d'une allégresse, d'une joie, d'une reconnaissance, mais c'est extraordinaire. Au fur et à mesure que la vie chrétienne se déroule, on a tendance, et ça c'est général, c'est la nature humaine, à finir par croire qu'on est des gens bien. Il suffit de quelques années de conversion et vous allez voir que va se développer un langage, un type de langage qui va être nous et eux. Nous. Mais eux, la société, oh regardez comme ils cherchent les plaisirs du monde, oh regardez comme ils partent dans des choses morales, eux et nous. Et on a une facilité à pointer l'extérieur alors que le Saint-Esprit veut pointer l'intérieur. Regarde comment tu as parlé à ton frère ce matin. Regarde comment tu as parlé à ta sœur ce matin. Regarde comment tu lui as tourné le dos quand il a voulu te serrer la main. Regarde comment il y a une difficulté. Si tu devais parler en Sainte-Seine, il devrait d'abord aller passer devant Dieu. C'est toutes ces petites choses qui passent de manière anodine dans notre vie quotidienne. Ça fait que bientôt 19 ans que je suis marié et le Seigneur me travaille par rapport à mon couple, bien sûr, depuis bien des années. Et il y a bien des fois où j'ai dû me tenir devant Dieu avant d'être sur ce pupitre. Parce qu'avec ma femme, on a eu quelques tiraillements, des mots, etc. Puis j'avais pas été... Alors quoi, tu vas avoir de l'eau amère et puis tu vas donner de l'eau douce? Non, non, non. Ça marche pas, ça. Des petites choses qui passent inaperçues. On devient un peu complaisant avec nous-mêmes. Mais vous savez que le Saint-Esprit, il n'est pas complaisant avec nous parce qu'il nous aime. Et il doit nous montrer en permanence ce que nous sommes, même si nous avons été sauvés par sa grâce. Oh, mais ça nous donne la dimension de sa grâce et de son amour donné à la croix. Priez le Seigneur qu'il vous fasse grandir, qu'il nous fasse grandir dans cette dimension-là. Vous vous sentirez comblé, comblé de l'avoir. Je termine. Je termine parce que je vois le temps tourne. Après, on en a jusqu'à 14 heures au moins. C'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez la montre et moi j'ai le temps. Voilà. Oui, ça c'est le défaut de ceux qui vivent en Afrique. Mais c'est pas un si mauvais défaut que ça. Troisième point, je termine. Je l'ai déjà un petit peu lu tout à l'heure. Cette grâce a été répandue sur nous, verset 8, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Vous êtes comblés, frères et sœurs, selon l'apôtre Paul et selon le Saint-Esprit, en connaissant la nature du plan de Dieu. Personne dit Amen. C'est sûr que dit comme ça, on n'a pas envie de dire Amen. Vous savez, le mot plan, c'est un mot piégé. C'est devenu quelque chose dans nos églises parfois. Je ne vous connais pas, donc je ne connais pas votre pasteur, je ne sais pas ce qu'il prêche. J'imagine qu'il prêche la parole de Dieu, mais... Il a cette liberté et on a cette liberté réciproque. Dans une littérature chrétienne très moderne, très actuelle, et qui parle beaucoup et qui plaît beaucoup, on parle beaucoup de plan. Et on aime bien cette phrase-là qui dit « Dieu a un plan pour ta vie ». C'est vrai ou c'est pas vrai? On aime bien cette phrase-là. Voilà. Mes frères et sœurs, malheureusement, le mot « plan », on en a fait autre chose que ce que la parole de Dieu en dit. Parce que le plan de Dieu ici, excusez-moi, hein, ce n'est pas un petit plan de carrière personnelle ou de coaching personnel jusque dans l'éternité. Le plan qui est révélé ici est un plan tellement plus grand. C'est le plan avec un P majuscule. Et ce plan-là, Paul nous le décrit ici, verset 9, deuxième partie, il est dit « Ce plan, Dieu l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ ». Pour conduire les temps vers l'accomplissement. Ok. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Frères et sœurs, je vais vous décevoir. Hein. Je ne sais pas combien vous êtes ce matin, une centaine peut-être, un peu plus. Nous, on aime bien dire, ah, Dieu a un plan personnel, pour moi, individuel. Je suis une créature si merveilleuse. Vraiment, si je n'existais pas, il faudrait m'inventer. Et on a développé cette espèce d'évangile qui est très centré sur nous-mêmes. Et on oublie que le seul plan de toute la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est de réunir le ciel et la terre par le salut que Christ offre aux êtres humains. Ça, c'est le plan P majuscule. Alors, ça n'empêche pas Dieu. Bien sûr, nous sommes tous différents. Moi, aujourd'hui, je vis au Congo. Vous, ici, vous vivez à Colomiers. Et chacun a un chemin différent, bien sûr. Mais je vais vous dire quelque chose. Si le petit plan P minuscule de votre vie ne s'inclut pas dans le grand plan P majuscule du Seigneur, alors vous passez à côté de votre existence. Bon, c'est pas grave si vous ne me réinvitez pas. Hein. Je vous le dis parce que c'est la parole de Dieu et c'est vraiment fraternel et par amour. Nous bâtissons nos existences autour de versets un peu fétiches, vous voyez. Jérémie 29, 11. Je suis sûr que vous pouvez le citer par cœur, celui-là. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et l'espérance. » Ça, c'est un peu la tarte à la crème pour beaucoup de chrétiens. Et on se dit, oh Seigneur, formidable, vraiment, tu as des plans formidables pour moi, tu vas permettre, tu vas ouvrir les portes, tac, 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 je vais vivre une vie. Oh, aux petits oignons, Seigneur, merci. Je te loue pour ça. Et le Seigneur du haut du ciel dit, tu n'as pas bien compris ce que je déclarais à ce moment-là, à ce peuple-là. Je ne vais pas faire l'étude biblique maintenant, peut-être votre pasteur pourra la développer. Mais quand Dieu dit ça dans Jérémie 29, 11, le peuple, il est où? Il est en déportation à Babylone. Déportation à Babylone, c'était 70 ans. Il y a des faux prophètes qui disaient 2 ans, non, 70 ans. Et au moment où Jérémie écrit cette lettre, lui est à Jérusalem, il écrit aux déportés de Babylone, il leur dit « Installez-vous, restez là-bas, faites des enfants, croissez, voilà, bénissez le pays où vous êtes en déportation, parce que vous allez y rester un moment, d'accord ?» Et puis ensuite, il enchaîne en disant « Car l'Éternel, voilà, a des projets pour vous. » Est-ce que vous savez quoi? On était juste au début de l'exil. 90% de ceux qui ont entendu ce Jérémie 29, 11 sont morts en déportation. Impossible, impossible de prendre ce verset en disant « Oh super Seigneur, tout va s'arranger pour moi, etc. Ma petite vie. » Non. Dieu avait un plan P majuscule pour son peuple, oui. Et ce plan n'a pas menti. Et au bout de 70 ans, ils sont rentrés, on connaît l'histoire. Frères et sœurs, nos vies ne peuvent pas être comblées si nous sommes centrés sur nous-mêmes. Si nous sommes centrés sur nos projets. Je le dis parfois, je ne veux pas être provocant ce matin, mais je dis parfois la chose suivante. Nous avons fait de Dieu notre suiveur, celui qui nous accompagne dans nos idées, nos pensées, nos projets, nos désirs, nos plans à nous. Nous nous y engageons et nous disons « Seigneur, bénis ce projet, bénis ça ». Et peut-être le Dieu dit « Mais est-ce que c'est moi qui l'ai inspiré? Est-ce que c'est dans ma volonté? Est-ce que ?» Je vais vous dire, ce n'était pas ma volonté, moi, de quitter la France. Il y a 4 ans en arrière, enfin plutôt maintenant, il y a 6 ans en arrière, quand Dieu nous a dit « C'est le temps maintenant de vous préparer » parce qu'il nous avait appelé à la mission il y a déjà 24 ans aujourd'hui. « C'est le temps pour vous de vous préparer de partir. » Seigneur, ce n'est pas mon plan à moi. L'Église va bien, l'Église va mieux. On est arrivé sur une Église un peu compliquée, ça allait mieux, Dieu merci. On avait fait des baptêmes, les auditoires avaient doublé, on était en train d'ouvrir une annexe. Et Dieu me dit « C'est maintenant le temps de partir. » « Oh Seigneur, ce n'est pas mon plan à moi, ça ne m'arrange pas. » Et tu sais quoi Seigneur? J'approche petit à petit la cinquantaine et ma santé, ça ne s'améliore pas. T'as pas remarqué? Et tu m'envoies où? En Afrique? Tu t'es pas trompé de destination? En Europe, ce serait pas mal. En Suède, peut-être qu'il y a des Esquimaux. Quand j'ai dit à mon médecin que j'allais partir en Afrique, il m'a dit « Je peux pas vous empêcher, monsieur. » Mais vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. J'ai dit, moi, je ne sais pas ce que je fais, mais mon Dieu, c'est ce que je fais. C'est ce qu'il fait. Ce n'était pas mon plan. Si je peux vous je peux pas vous raconter mon témoignage, mais moi, ce n'était même pas mon plan de carrière. Moi, j'étais un universitaire. Ça faisait 13 ans que je travaillais dans un laboratoire au CNRS, j'enseignais, j'avais un super métier, une super carrière. Voilà, j'avais bien réussi mes études, Dieu m'avait fait la grâce, il m'avait accordé cet excellent métier, je voyageais à droite et à gauche dans le monde, j'étais parmi mes pairs, voilà, dans un milieu intellectuel, ça me plaisait, encore aujourd'hui, j'aime bien la science, j'étais un scientifique. Moi. Mais Dieu m'a dit, stop, fini. Seigneur, c'est pas mon plan. Oui. Mais j'ai une carrière pour toi, je veux inclure le petit plan P minuscule de ta vie dans le plan majuscule que j'ai pour les êtres humains tout entiers, pour la terre entière. Alors moi, ça m'a amené au Congo, puis après peut-être un jour ailleurs, peut-être. Certains d'entre nous, ça les laissera ici, mais ce n'est pas grave. Et je le disais au pasteur, à la pastorale récemment, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à vivre une vie missionnelle. Je n'ai pas dit missionnaire au bout du monde, là, mais missionnel. J'ai été mandaté par Dieu pour être là où Dieu m'a planté, la lumière du monde, pas poursuivre mes petits intérêts à moi. Mais vous savez que quand vous vivez une vie comme ça, ah, ça comble votre âme. alors que vous avez tout laissé, tout abandonné, tout quitté, que vous avez laissé le Seigneur, dit, bah, écoute, c'est toi qui t'en charges. Oh, mais Dieu vous donne le centuple largement. C'est pas matériel, c'est pas palpable, mais vous avez quelque chose là. Ah, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable. On est fou quand on refuse de rentrer dans le plan P majuscule de Dieu. On est fou. C'est nous qui sommes fous. Dieu veut nous bénir. Et on ne le saisit pas. Bon, je vais peut-être m'arrêter parce que, vous savez, mais mettez une pièce dans chez un pasteur, là, puis il vous parle. J'aurai encore pas mal de choses à vous partager. Mais j'aimerais simplement vous laisser cette pensée, frères et sœurs. Je reviens à ce que je disais en introduction. Mon frère, ma sœur, te sens-tu comblé au sens du texte biblique, hein, pas juste facile. Ne répondons pas facilement par l'union que tu as, que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ, par ton union. Réfléchis à ça. Dieu peut-il tout me prendre? Peut-il tout me demander? Oh, peut-il me demander tel sacrifice, tel sacrifice? Peut-il le faire? Et est-ce que je pourrais encore dire oui, Seigneur? Tant que toi, je t'ai toi, j'ai l'essentiel, j'ai l'absolu. J'ai le trésor. Mon trésor, c'est toi. C'est toi et toi seul. Je lisais récemment le témoignage d'un homme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était dans les pays de l'Est, au temps où c'était communiste encore. Il s'appelle Richard Wurmbrand. Très, très connu. Hein. Un homme qui a passé, je ne sais plus combien, 14, 15 ans, 20 ans en prison, je ne sais plus. J'ai plus le chiffre en tête. Et il vous raconte, cet homme-là, comment... Tout lui a été pris. Tac, 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 tac. Et il vous raconte aussi ce qu'il vit dans sa cellule. Et il vous dit, j'étais l'homme le plus heureux sur terre. Au fond d'une cellule crasseuse, il mangeait des bouillons infects là, qu'on lui servait, qui étaient à moitié avariés. Régulièrement, il y avait des interrogatoires, il était tabassé. Pas de nouvelles de sa femme, de son fils. Des membres de sa congrégation, certains sont morts, tout ça. Il a été privé de tout. Il dit non, en fait, j'avais tout. Les hommes ont pensé qu'ils me privaient de tout, mais j'avais l'essentiel. Frères et sœurs, ne voulons-nous pas développer ce type de relation avec notre Dieu? Oh, ça serait extraordinaire. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur quelques instants. Ô notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. C'est toi notre bien le plus précieux, c'est toi notre trésor, Seigneur. Nous sommes fous et insensés quand nous sommes émerveillés par d'autres choses, que nous courons après d'autres choses, que nous disons j'ai besoin de ça pour me sentir bien, j'ai besoin de telle bénédiction pour aller mieux. Ô Seigneur, accorde-nous une seule chose jusqu'à notre mort, c'est toi et toi seul. C'est ça que nous désirons, c'est ça dont nous avons besoin. C'est ça qui nous restera seul dans l'éternité. Tout va faner sur cette terre, tout va finir par partir. Mais le seul qui restera et qui demeurera, c'est toi, face à face, toi et nous, Seigneur mon Dieu, à te contempler, à t'admirer, à te louer pour l'éternité. Oh, dès aujourd'hui, dès à présent, par ton esprit, fais descendre cette vérité. Donne-nous cette soif, Seigneur notre Dieu, de n'avoir que toi et toi seul pour centre, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous mettre de côté, Seigneur mon Dieu, nos pensées vaines, nos pensées charnelles, nos pensées qui sont attachées à cette terre pour ne désirer toi et que toi seul. Oh, Seigneur, bénis les bien-aimés ici présents ce matin. Que cette simple prédication, mon Dieu, que ta parole, mon Dieu, puisse faire son chemin dans le cœur de plusieurs, afin que véritablement, Seigneur, il y ait une orientation, une réorientation de vie. Ô Seigneur, non pour notre gloire, mais pour la tienne, parce que toi seul es digne. Toi seul es digne, tu es majestueux. Merci, merci Seigneur, merci notre Dieu. Amen. Amen. Amen.